Chapitre 24. Message reçu. Alors que le soleil sombrait à l'horizon, le paysage commença à changer. Les collines perdirent de l'altitude et les bosquets s'élargirent. Très souvent, les clôtures de pierre qui entouraient ce qui avait été des champs n'étaient plus que des monticules recouverts de haies luxuriantes. En d'autres endroits, ces murets couraient le long de vastes bois de chêne, de l'auréole, de pin, de myrte, et d'autres arbres qu'Egwen aurait été bien en peine d'identifier. Les rares fermes étaient désormais privées de toits, et des arbres de 30 ou 40 pieds de haut y poussaient, formant des sortes de forêts miniatures en chambres, avec des oiseaux et des écureuils à queue noire compris dans le lot. Les ruisseaux clairsemés étonnaient autant les aïeuls que les forêts d'intérieur et les étendues d'herbes. Depuis l'expédition contre la manne, ils avaient entendu parler des terres mouillées par des colporteurs, voire lu des informations à leur sujet, dans des livres apportés par des marchands comme Adnan Kadere, mais très peu d'entre eux avaient vu ce qui s'étendait de l'autre côté du mur du dragon. Cela dit, ce peuple indomptable s'adaptait très bien. Par exemple, la couleur des tentes, avait-on découvert, se fondait très bien à celle des feuilles mortes et de l'herbe desséchée. Pour l'heure, le camp s'étendait sur une ou deux lieues, et des milliers de feux de cuisson y brillaient comme autant de lucioles. Dès que les Gaïshines l'eurent érigé, Egwen fut ravi de pouvoir se glisser sous sa tente, où les lampes étaient allumées et où brûlait un petit feu. Retirant ses bottes souples puis ses bas de laine, la jeune femme s'étendit sur sa paillasse et se délecta de faire jouer ses orteils nus. Que n'aurait-elle pas donné pour un bain de pied? Loin d'être aussi dure à la peine que les aïeuls, elle redoutait quand même de se ramollir, car quelques petites heures de marche avaient suffi pour qu'elle ait le sentiment que ses pieds avaient doublé de volume. Ici, l'eau n'aurait pas dû poser de problème, même si les ruisseaux n'étaient pas très abondants. Mais avec un peu de chance, elle pourrait peut-être même prendre un bain tout court. Soumise et silencieuse, comme toujours, Cowind lui apporta un repas composé de pain plat à base de zémail et d'un ragoût plutôt mastoc qu'elle mangea mécaniquement, bien qu'elle fût plus fatiguée qu'affamée. Dans son assiette, elle reconnut les poivrons séchés et les haricots, mais elle préféra ne pas trop s'interroger sur la viande brunâtre.
« Du lièvre »,
se dit-elle, en espérant qu'elle ne se trompait pas. La seule idée de ce que mangeaient parfois les aïeuls aurait pu lui faire boucler les cheveux à la manière de ceux d'Elaine, voire davantage. À ce propos, elle aurait parié que Rand ne baissait jamais les yeux sur son assiette. En matière de nourriture, les hommes étaient de petite nature. Son repas terminé, Egwen s'allongea près d'une lampe d'argent ouvragée, dotée d'un réflecteur qui augmentait considérablement sa lumière. Au début, la jeune femme s'était sentie un peu coupable à l'idée que les aïeuls, sous leur tente, n'avaient pas d'autre lumière que celle de leur feu. Parmi eux, à part les matriarches ou les chefs de clan ou de tribu, très peu faisaient l'acquisition de lampes. Mais pourquoi Egwen serait-elle restée dans la pénombre alors qu'elle pouvait faire autrement? À ce propos, elle se souvint que la température nocturne, ici, ne contrastait pas si radicalement avec celle du jour. Du coup, il faisait déjà presque trop chaud sous la tente. Un petit tissage d'air suffisant à modérer le feu, Egwen sortit d'une de ses sacoches de sel le livre relié de cuir usé qu'elle avait emprunté à Avienda. Un petit ouvrage, mais très épais, et au texte serré, difficile à lire sans une parfaite illumination. En revanche, il se révélait très aisément transportable. La flamme, la lame et le cœur. Un fort joli titre pour un recueil de récits au sujet de Birgit et Gaïd-el-Kain, Anselan et Barachel, Rogosh à l'œil d'aigle et Dunsinin. Avienda affirmait être intéressé par les batailles et les aventures. Et c'était peut-être vrai au fond. Mais chaque histoire traitait en même temps de l'amour unissant un homme et une femme. Et Gwen concédait volontiers que c'était ça qui lui plaisait. L'évocation de passion parfois orageuse, mais toujours tendre et éternelle. Cela dit, elle le concédait volontiers in petto, car ce n'était pas le genre de faiblesse qu'une femme se voulant de tête aurait avoué en public. En réalité, elle n'avait guère plus envie de lire qu'elle avait eu faim. Son seul désir était de faire ses ablutions, puis de dormir. Elle aurait même sauté avec plaisir la première étape. Mais cette nuit, Amys et elle avaient rendez-vous avec Ninevé dans le monde des rêves. Là où était l'ancienne sage-dame, en chemin pour le Galdan, il ne faisait pas encore nuit, et ça impliquait de rester éveillé. Lors de leur dernière rencontre, Elaine avait fait à Egwen une très excitante description de la ménagerie. Cela dit, la présence de Galad était-elle une raison suffisante pour détaler de la sorte? Probablement pas, mais Ninevé et Elaine, à force, devaient avoir pris goût à l'aventure. Les nouvelles au sujet de Siouan étaient bien regrettables, car elles avaient toutes besoin d'une main ferme pour les guider. Même Ninevé? Oui, même elle, si étrange que ça paraisse. Depuis cet incident, au cœur de la vision onirique de la tour, Ninevé représentait de moins en moins l'autorité pour Egwen, En d'autres termes, elle n'avait plus vraiment besoin de s'opposer à elle. Alors qu'elle tournait une page, Egwene s'avisa, non sans une certaine gêne, qu'elle avait hâte de voir Nineveh. Parce que c'était une amie? Non, on ne pouvait pas dire ça ainsi. Plutôt parce qu'elle avait envie de voir si les effets de son coup de force improvisé s'étaient prolongés. Dans le cas contraire, Nineveh tirerait sur sa natte, plisserait le front et...
« Lumière, il faut qu'elle soit toujours dans la même disposition d'esprit. Si elle parle de mon excursion, Amis, Melaine et Bear prendront chacune leur tour pour m'écorcher vive. Si elle ne me fiche pas tout simplement dehors. »
Alors que ses yeux faisaient tout pour se fermer, la jeune femme lut les belles histoires d'amour dans une sorte de demi-sommeil rêveur. Elle pouvait se montrer aussi forte que toutes ces femmes. Oui, aussi courageuse et dure que Dunsinin, Nereine, Melisinde ou même Birgit. Et Kavienda. Nineveh serait-elle assez maligne pour tenir sa langue devant Amis? Sinon, elle pourrait toujours la prendre par la peau du cou et la secouer comme un prunier. Non, ça ne se faisait pas. Elle était son aînée quand même. Dunsinin, Birgit, tirée sur sa natte, aussi courageuse et aussi dure qu'une promise de la lance. Sa tête tombant toute seule, et Gwen tenta de la caler avec le petit livre, tandis que son souffle ralentissait et se faisait plus profond. Egwene sursauta en s'avisant qu'elle était au milieu des colonnes en pierre rouge du cœur de la pierre, et sous l'étrange lumière de Telaran Riod, bien sûr. Puis elle remarqua qu'elle portait le Kadinsor, et fut tout aussi surprise. Si elle la voyait ainsi vêtue, Amis ne serait pas contente, et pas amusée du tout. La jeune femme se changea à la hâte, et se trouva encore plus surprise quand Samis passa du Kadinsor à une superbe robe de soie bleue, avant de se fixer sur la tenue traditionnelle des matriarches, avec son bracelet de flammes et son collier en or et en ivoire. Depuis un certain temps, elle n'avait plus connu de pareilles fluctuations vestimentaires. Un instant, elle songea à sortir du monde des rêves. Mais sous sa tempe, elle devait dormir à poing fermé. Dans ce cas, elle passerait dans un rêve à elle. N'ayant pas toujours le contrôle dans ses propres songes, il risquait de lui être impossible de regagner Telaran Riod. Et pas question de laisser Nineveh et Amis en tête à tête. Si la matriarche faisait montre d'autorité, que risquait de révéler Nineveh? Eh bien, quand Amis arriverait, il suffirait de dire qu'elle venait juste d'arriver aussi. Jusque-là, les matriarches avaient toujours eu un peu d'avance sur elle, ou elle déboulait en même temps. Mais si Amis pensait qu'elle était là depuis quelques secondes, elle ne se formaliserait sans doute pas. Au fil du temps, Egwene s'était presque habituée à sentir des yeux invisibles peser sur elle dans la vaste salle.
Les colonnes, les ombres, tout cet espace vide et rien d'autre.
Cela dit, elle espérait qu'Amis et Nineveh ne tarderaient plus trop. Pourtant, elle allait devoir attendre. Dans le monde des rêves, le temps s'écoulait bizarrement, comme dans les songes normaux. Mais il restait une bonne heure avant le rendez-vous, et ce délai-là n'était pas compressible. Ça lui laissait peut-être le temps de... Egwene s'avisa qu'elle entendait des murmures dans la salle. S'unissant au Saïdar, elle avança lentement vers l'endroit où Rand avait planté Kalandor dans le sol, juste sous le grand dôme. Selon les matriarches, le contrôle qu'on pouvait exercer ici sur Telaran Riod était équivalent en puissance à ce qu'on obtenait avec le pouvoir de l'unique. Maîtrisant bien mieux son aptitude à canaliser, la jeune femme s'y fiait également davantage. Toujours bien au cœur des colonnes, elle s'arrêta et observa. Ce n'étaient pas deux sœurs noires comme elle l'avait redouté, et pas Nineveh non plus. Debout non loin de Kalandor, dont la lueur l'illuminait, Elaine était en grande conversation avec la femme la plus bizarrement habillée qu'Egwene ait jamais vue. Une étrange veste blanche, très courte, un pantalon bouffant jaune resserré aux chevilles et des bottines à hauts talons. En outre, l'inconnue brandissait un arc qui brillait comme de l'argent. Dans son carquois, les flèches aussi scintillaient. Egwene ferma les yeux et serra très fort les paupières. D'abord ses mésaventures vestimentaires, et maintenant, avoir lu une histoire au sujet de Birgit, l'arc en argent ne laissant aucun doute sur son identité, n'était pas une raison pour croire qu'elle la voyait. Comme les autres héros, Birgit attendait, quelque part, d'être rappelée à la vie afin de livrer l'ultime bataille. Mais quand Egwene ouvrit les yeux, Elaine et son interlocutrice étaient toujours là. Sans entendre ce qui se disait, la jeune femme en crut au moins ses yeux cette fois. Alors qu'elle allait avancer pour révéler sa présence, une voix retentit dans son dos.
As-tu décidé de venir plus tôt? Toute seule?
Egwene se retourna et découvrit Amis, son visage tanné par le soleil, bien trop jeune pour ses cheveux blancs. Beyr était là aussi. Les bras croisés, le châle tiré sur le crâne, les deux matriarches étaient l'incarnation du mécontentement.
Je me suis endormie,
fit Egwene. Vu l'heure du rendez-vous, bien plus tardive, L'excuse ne tenait pas. Alors qu'elle expliquait avoir sombré sans le vouloir dans le sommeil, puis redoutait de ne plus pouvoir rallier Telaran Riod, en omettant sa ferme volonté de ne pas laisser Amis et Ninévé en tête-à-tête, Egwene eut la surprise d'éprouver une pointe de culpabilité à l'idée qu'elle avait envisagé de mentir, et de soulagement, puisqu'elle ne l'avait pas fait. Non que la franchise soit une garantie de bien s'en tirer. Si elle était un peu moins sévère que Beyr, Amis restait capable de l'envoyer entasser des cailloux toute la nuit. En matière de punition, beaucoup de matriarches avaient un penchant pour les corvées inutiles. Quand on était en train d'enterrer des cendres avec une cuillère, on pouvait difficilement passer à côté du fait qu'il s'agissait d'un châtiment. Bien sûr, la sanction ultime était l'arrêt pur et simple de l'initiation des Gwen. À côté, les cendres étaient bien peu de chose.
« Voilà qui peut arriver, »
fit Amis. Et Gwen ne parvint pas à retenir un soupir de soulagement.
« Mais la prochaine fois, sors d'ici et gagne tes propres rêves. J'aurais pu entendre ce que Ninévé doit nous dire et l'informer de ce que nous savons. Si Melaine n'était pas avec Baël et Dorinda ce soir, elle serait présente aussi. Tu as fait peur à Beyr. Elle est fière de tes progrès. Et s'il t'arrivait quelque chose... »
Beyr n'avait pas l'air fier. Et ça ne s'améliora pas quand elle prit le relais d'Amis.
« Tu as de la chance que Cowyn t'ait trouvé quand elle est venue débarrasser ton repas et qu'elle se soit inquiétée de ne pas pouvoir te réveiller pour que tu te glisses sous tes couvertures. Si je pensais que tu es ici depuis plus de quelques minutes... »
Beyr foudroya sa disciple du regard, puis elle reprit d'un ton bougon.
« Maintenant, nous allons devoir attendre l'arrivée de Ninévé, parce que si on te disait de partir, tu nous en ferais toute une histoire. Bien, puisqu'il le faut, mettons au moins ce temps à profit. Concentre-toi sur... Ce n'est pas Ninévé. »
dit très vite Egwen. Avec Beyr de cette humeur, elle préférait ne pas savoir à quoi ressemblerait une leçon.
« C'est Elaine, et... »
Ayant tourné la tête, Egwen n'alla pas jusqu'au bout de sa phrase. Dans une robe de soie verte qui aurait tenu son rang à un bal, la fille héritière marchait de long en large à côté de Kalendor. En revanche, Birgit n'était nulle part en vue.
« Pourtant, je ne l'ai pas imaginée.
Elle est déjà là ?»
demanda Amis, avançant entre les colonnes pour mieux voir.
« Une autre jeune idiote !»
marmonna Beyr.
« De nos jours, les filles ont autant de cervelle que des chèvres !»
Filant devant Egwene et Amis, la matriarche entra dans le cercle de lumière de Kalendor et se campa devant Elaine, les poings sur les hanches.
« Elaine d'Andor, tu n'es pas ma disciple, même si tu en sais assez long grâce à nous pour ne pas te faire tuer ici, à condition d'être prudente. Si tu l'étais, je te flanquerais la rouste de ta vie. » Puis je te renverrai chez ta mère afin qu'elle te garde accrochée à ses jupes le temps que tu aies grandi. Et selon moi, ça risque de prendre du temps. Je sais que vous êtes venus seuls dans le monde des rêves, Ninévé et toi. C'est de la folie. »
En voyant débouler les trois femmes, Elaine avait sursauté. À présent, tandis que Beyr la sermonnait, elle se redressait, pointant le menton de sa façon si particulière. Sa robe devint rouge, son chatoiement augmenta, et des broderies apparurent sur les manches et le corsage à col montant. Dans le lot d'ornements, et Gwen reconnut des lions rampants sur fond de lys d'or, les armes personnelles de la fille héritière. Un diadème d'or apparut sur sa chevelure blonde, un lion rampant en pierre de lune pendant délicatement sur son front. Elaine n'avait pas encore un contrôle parfait sur ses vêtements oniriques. Pourtant, cette fois, Egwene n'aurait pas juré que cette tenue était le fruit du hasard.
« Je vous remercie de votre sollicitude, »
dit-elle, superbement hautaine.
« Mais il est exact que je ne suis pas votre disciple. « Beyr Deshar ad Haido, je vous suis reconnaissante de vos lumières, mais je dois suivre mon propre chemin afin d'accomplir la mission que m'a confiée la chair d'Amerlin. »
« Une morte !»
lâcha Beyr, glacial.
« Tu te réclames d'une morte !»
Et Gwen sentit que Beyr, furieuse, se dressait sur ses ergots. Si elle n'intervenait pas, la matriarche risquait de vouloir donner une bonne leçon à Elaine. Et les querelles de ce genre devaient être proscrites.
« Que... Pourquoi es-tu là à la place de Ninévé ?»
Egwene avait failli demander à son amie ce qu'elle faisait ici, mais saurait offert une ouverture à Beyr et donner l'impression qu'elle était du côté des matriarches. Bien entendu, elle aurait en réalité voulu savoir pourquoi la fille héritière parlait avec Birgit.
« Je ne l'ai pas imaginé. »
Bien sûr, il avait pu s'agir d'une femme qui se rêvait sous l'apparence de Birgit. Mais pour rester plus de quelques instants dans le monde des rêves, il fallait y entrer en toute connaissance de cause. De plus, Elaine n'aurait sûrement pas parlé à une inconnue. Où Birgit et les autres héros attendaient-ils qu'on les rappelle ?
« Ninévé soigne une tête douloureuse, »
dit Elaine. Le diadème disparut et la robe devint plus simple, avec seulement quelques broderies sur le corsage.
« Elle est malade ?»
s'inquiéta Egwene.
« Juste une migraine et quelques contusions.
Elaine gloussa et fit la grimace en même temps.
Et Gwen, tu n'en aurais pas cru tes yeux. Les quatre Chavanas sont venus pour dîner avec nous. En réalité, avec l'intention de compter Fleurette à Ninévé. Les premiers jours, ils ont essayé avec moi, mais Tom leur a dit un petit mot et ils n'ont pas insisté. Je me demande de quel droit il a fait ça. Cela dit, je ne voulais pas que ces hommes... Bon, passons. Ils étaient là, à tenter de séduire Ninévé. En vain, puisqu'elle ne leur accordait pas plus d'intention qu'un vol de mouche. Quand Latel est arrivée, folle de rage, en traitant Ninévé de tous les noms d'oiseaux, elle l'a rossée avec un bâton. A-t-elle été blessée ?
Demanda Egwen, sans trop savoir de qui elle parlait. Quand l'ancienne sage-dame s'énervait...
Pas elle. Les Chavanas ont tenté de la tirer des griffes de Latel. Taïrik boitera pendant des jours. Et la lèvre de Broug mettra un moment à désenfler. Petra a dû porter Latel dans sa roulotte. Et je doute qu'elle en sorte avant longtemps.
Elaine secoua la tête.
Un de ses acrobates boiteux, sa montreuse d'ours en larmes sur son lit. Ne sachant qui blâmer, Luca a accusé tout le monde. J'ai pensé que Ninévé allait lui flanquer une correction. Au moins, elle n'a pas recouru au pouvoir. Avant qu'elle ait le dessus sur Latel, j'ai bien cru qu'elle allait le faire une ou deux fois.
Amis et Beyr échangèrent un regard glacial. À l'évidence, ce n'était pas à leurs yeux le comportement d'une Aes Sedai. Et Gwen était un peu décontenancée elle-même. Mais c'était surtout à cause de tous ces gens dont elle avait à peine entendu parler. Des artistes bizarres qui voyageaient avec des lions, des chiens et des ours. Sans oublier une illuminatrice. Et ce Petra. Sans nul doute, il ne pouvait pas être aussi fort qu'Elaine le prétendait. Cela dit, Tom avalait du feu en plus de jongler. Et les exploits d'Elaine et de Julin semblaient très étranges, même si la jeune femme recourait au pouvoir. Si Ninévé avait failli canaliser, Elaine avait dû voir l'aura du Saïdar. Qu'elles aient ou non une bonne raison de se cacher, les deux femmes ne réussiraient pas si l'une d'elles utilisait le pouvoir à tort et à travers. Les yeux et les oreilles de la tour finiraient par le savoir, parce que les nouvelles de ce genre voyageaient très vite, surtout si la caravane était encore en Amadicia.
« Dis à Ninévé de contrôler ses nerfs, si elle ne veut pas que je lui dise deux ou trois mots qu'elle n'appréciera pas. »
Elaine parut surprise. Rien d'étonnant, car Ninévé n'avait pas dû se vanter auprès d'elle du fameux incident.
Si elle canalise,
continua Egwen.
Et Laïda le saura dès qu'un pigeon aura eu le temps de rallier Tarvalon.
La jeune femme ne put pas en dire davantage. Rien qu'avec ça, Amis et Beyr se regardaient en fronçant les sourcils. Que pensait-elle des divisions qui régnaient à la tour? Et d'une chair d'Amerlin qui ordonnait qu'on drogue des Aes Sedai? C'était impossible à dire. Comparée à ces femmes, Moiraine serait passée pour la commère du village.
En fait, j'aimerais bien vous parler à toutes les deux. Si nous étions à la tour, dans nos anciennes chambres, je vous dirai bien un mot à l'une et à l'autre.
Elaine reprit sa pose de fille héritière offensée.
Tu peux me le dire quand et où tu veux.
Avait-elle capté le message? Les anciennes chambres signifiaient loin des matriarches. Eh bien, si Elaine n'avait pas compris, tant pis. Mieux valait changer de sujet avant que les Aiel se montrent plus doués qu'elle pour interpréter les phrases à double sens.
Cette bagarre avec Latel va poser des problèmes?
Quelle mouche avait piqué Ninévé? Au village, elle aurait envoyé devant le cercle toute femme adulte qui se serait comportée ainsi, et à la vitesse d'un cheval au galop en plus.
« Vous ne devez plus être très loin du Galdan. 3 jours avec de la chance, selon Luca. La ménagerie n'avance pas très vite. Et si vous la laissiez à présent ?»« C'est une idée, oui. Mais j'aimerais vraiment faire mon numéro devant... »
Secouant la tête, elle regarda Kalandor et son décolleté se creusa, pour revenir à son emplacement d'origine presque aussitôt.
« Je ne sais pas trop, Egwen. Seul, nous ne progresserions pas beaucoup plus vite. Et nous ne savons pas encore exactement où aller. »
En clair, Ninévé ne se rappelait toujours pas l'endroit où les Sœurs Bleues devaient se réunir. Si le rapport destiné à Elaïda disait juste.
« En outre, Ninévé risque de piquer une colère si nous devons abandonner le chariot et acheter des chevaux de sel ou un autre coche. Et n'oublie pas que nous apprenons une foule de choses sur les Seanchaniens. Serandine était dresseuse de Esredit à la cour des Neuf Lunes, où siège l'impératrice du Seanchan. Hier, notre amie nous a montré des objets qu'elle a emportés en quittant Falme. Egwen, elle a un Adam.
Egwen avança brusquement, l'ourlet de sa jupe frôlant Kalandor. Contrairement à ce que Ninévé semblait croire, les protections de Rand n'étaient pas physiques.
Tu es sûr qu'elle n'était pas une Souldame ?
Demanda Egwen d'une voix vibrante de colère.
Certaine,
répondit Elaine.
Je lui ai fait porter l'Adam, et il n'a eu aucun effet sur elle.
Sauf s'ils le cachaient bien, les Seanchaniens eux-mêmes ne connaissaient pas ce petit secret. Si leurs damanes étaient des femmes capables de canaliser le pouvoir et nées avec l'étincelle, leurs souldames, chargées de contrôler ces naturels, qui n'avaient pas besoin d'une formation pour utiliser leurs dons, étaient simplement des candidates au pouvoir qui auraient eu besoin d'une initiation. Convaincus que les femmes aptes à canaliser étaient des bêtes sauvages qu'il convenait de dompter, les Séanchaniens, peut-être inconsciemment, élevaient nombre d'entre elles à des positions très respectées.
« Je ne comprends pas cet intérêt pour les Séanchaniens, »
dit Amis. Elle avait encore du mal à prononcer ce nom, appris de la bouche d'Elaine lors de leur précédente rencontre.
« Ils ont fait beaucoup de mal, mais ils sont partis. Randall Thor les a mis en déroute. »
Et Gwen se détourna et sonda du regard les ombres qui se nichaient entre les splendides colonnes.
« Parti, on ne veut pas dire qu'on ne reviendra jamais. »
Elle refusait que quelqu'un voie son visage, même Elaine.
« Il faut en apprendre le plus long possible sur eux, au cas où ils se remontreraient. »
À Falm, les Séanchaniens lui avaient mis un collier autour du cou, avec l'intention de l'envoyer chez eux, de l'autre côté de l'océan d'Arit, afin qu'elle passe le reste de sa vie en laisse comme une chienne. Dès qu'elle pensait à ces gens, la fureur la submergeait, et la peur. S'il revenait, peut-être réussirait-il à la capturer cette fois. Voilà les émotions que la jeune femme refusait de montrer à ses compagnes. Surtout la terreur qui faisait briller son regard. Elaine lui posa une main sur le bras.
« S'ils reviennent, »
dit-elle,
« ils trouveront à qui parler. Cette fois, la surprise et l'ignorance ne joueront pas en leur faveur. »
Et Gwen tapota la main de son amie, alors qu'elle aurait voulu la serrer très fort. Elaine comprenait bien trop de choses à son goût. En même temps, c'était réconfortant.
« Finissons-en avec ce que nous sommes venus faire. »
intervint Beyr.
Tu as besoin de dormir pour de bon, Egwene. Nous avons demandé à des Gaïshine de te déshabiller et de te glisser sous ta couverture,
enchaîna Amis, bizarrement aussi compatissante qu'Elaine.
Une fois de retour dans ton corps, tu pourras dormir jusqu'au matin.
Egwene sentit qu'elle rosissait. Connaissant les mœurs des Aiel, il était plus que probable que des hommes aient compté parmi les Gaïshine en question. Il faudrait que la jeune femme aborde ce sujet avec les matriarches. Délicatement, bien sûr. Elles auraient grand mal à comprendre, et ce n'étaient pas des explications faciles à donner. Au moins, la terreur avait disparu.
On dirait que je redoute plus les offenses faites à ma pudeur que les Séanchaniens.
C'était faux, bien entendu. Mais cette idée restait consolante. En fait, il n'y eut pas grand-chose à dire à Elaine. L'expédition venait d'entrer aux Kaerienne. Kuladin avait fait dévaster Séléan et les terres environnantes, et les Shaido, bénéficiant toujours d'une confortable avance, continuaient à filer vers l'ouest. N'étant pas allés tout de suite sous leur tente, les matriarches en savaient un peu plus long qu'Egwene. Il y avait eu de rares escarmouches contre des cavaliers qui n'avaient pas tardé à fuir, et d'autres hommes à cheval avaient détalé sans chercher à engager le combat. En l'absence de prisonniers, Moiraine et Lan en étaient réduits à supposer qu'il s'agissait de bandits ou de partisans d'une ou de plusieurs maisons engagés dans la lutte pour le trône du soleil. En tout cas, l'ensemble de ces hommes était en haillons. Et à cause d'eux, on saurait bientôt qu'il y avait plus d'Aiel aux Kaerienne.
« De toute façon, »
commenta Elaine,
« ça se serait su tôt ou tard. »
Tandis qu'elle se volatilisait en compagnie des matriarches, Egwene regarda Elaine et le cœur de la pierre perdre de la substance devant ses yeux. La fille héritière avait-elle capté le message? Aucun moyen de le savoir.